I am your voice.
Nous sommes deux vieilles nations dans le monde.
Le Royaume-Uni et la France.
لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء
بالراح بالدم
تكون لعنة عليكم
نبديك يا أقصى
إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها
بيوتكم في انتظاركم مساجدكم في انتظاركم كنائسكم في انتظاركم وهم لكم ولأولادكم.
Vous écoutez L'Histoire en Marche, un programme réalisé par Jalil Lakhdar, coordonné par Sami Hahel et Marim Abdou, pour vous accompagner au micro. La dite armée de l'entité d'occupation mène des attaques à la frontière sud du Liban. Au même moment, l'émissaire américaine Morgan Ortagus exhortait l'institution militaire à appliquer pleinement son plan de désarmement du Hezbollah, présenté lors d'un conseil des ministres le 5 septembre dernier. Allant plus loin dans l'escalade, l'armée sioniste franchit la frontière du pays du Cèdre et tente d'intercepter un véhicule de l'armée libanaise qui circulait entre la ferme de Bastara et la localité de Majidiyé. Le président Joseph Aoun a demandé à l'armée de faire face à toute incursion israélienne, dit-il, pour défendre le territoire libanais et la sécurité de ses citoyens.
جوزيف عون أنه طالب من الجيش اللبناني التصدي لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة.
Avec nous à partir de Beyrouth, Monsieur Michel de Chadarévian. Est-ce que nous avons Michel de Chadarévian, conseiller diplomatique du président libanais en ligne à partir de Beyrouth? Monsieur Michel de Chadarévian, est-ce que vous nous entendez? Oui, nous avons Michel de Chadarévian. Merci d'accepter notre invitation et d'être avec nous. Vous êtes conseiller diplomatique du président libanais Joseph Aoun. Monsieur Michel de Chadarévian, les violations du territoire libanais sont quasi quotidiennes. Quelles sont les mesures que compte engager le Liban ?
Écoutez, c'est depuis le cessez-le-feu qui a été instauré en novembre 2024, ça va faire bientôt un an, que les Israéliens n'ont pas cessé jour et nuit de, premièrement, de survoler le ciel du Liban par des drones intermittents. Ils sont en train de tuer presque chaque jour un ou deux personnes, de démolir des habitations, tout ce qui leur semble bon de démolir, ne pas laisser la reconstruction dans les villages du sud. Et dernièrement, ils ont commencé à utiliser une nouvelle pratique, ce sont les incursions. Et aujourd'hui, ça a été d'une façon très flagrante de rentrer sur le territoire libanais et de tuer un agent municipal. Donc le président a demandé à l'armée de prendre les mesures nécessaires pour parer à toute incursion. Ce sont des mesures militaires, riposter, tirer sur les soldats israéliens qui rentrent sur notre territoire, mais de faire quelque chose parce que c'est devenu inacceptable. Comme je vous ai dit, depuis novembre passé, il n'y a eu aucune riposte de la part du Libanais, du côté libanais. Donc, c'est fini. Dernièrement, le mécanisme s'est réuni depuis deux jours pour dire qu'il considère que ce que l'armée fait est fait d'une façon remarquable, mais qu'il fallait faire un peu plus vite. Pour oui, nous avons toujours cinq positions occupées. Nous avons aussi des zones tampons que l'armée israélienne ne laisse pas aucune personne piétiner cette région-là. Donc aujourd'hui, nous avons subi durant un an, et je pense que c'est une décision qui a été très raisonnablement prise par le président pour pouvoir riposter à n'importe quelle incursion des Israéliens sur notre territoire.
De hauts responsables de l'administration Trump ont récemment contacté leur homologue libanais, ou en tout cas la partie libanaise, pour les encourager à engager un dialogue direct avec dit-il Israël. Comment réagissez-vous à cela? Comment comptez-vous agir en ce sens, Monsieur Michel de Chadarévian?
Écoutez, ce que le président a dit et ce que je vais redire maintenant, c'est que nous avons encore 5 points d'une zone occupée par les Israéliens.
Oui.
Nous avons des prisonniers qui sont dans les prisons israéliennes. Et ces prisonniers ne sont pas seulement les prisonniers de guerre, parce que nous avons une affaire de 7 à 8 prisonniers de guerre durant les opérations militaires. Et ils ont été arrêtés par les Israéliens. Ça, je comprends. Durant une guerre, il y a des prisonniers de guerre.
Mmh.
Mais après un cessez-le-feu, des gens qui vont voir leurs habitations, leurs villages, leurs terres, et ils sont arrêtés durant cette période-là, ça c'est une chose inadmissible de la part des Israéliens. Surtout, on ne peut pas accepter un truc pareil.
Surtout que cela s'est fait sur le territoire libanais, Monsieur Michel de Chadarévia.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Voilà,
on aurait compris que si c'était sur le territoire israélien, mais non, c'est aberrant. Que les Israéliens puissent faire tout ce qui leur semble bon sans aucun commentaire de la part des grandes puissances, c'est pas possible.
Principale pomme de discorde ou point d'achoppement restent les armes du Hezbollah. L'entité sioniste et les États-Unis insistent pour que le Hezbollah désarme et que l'armée nationale reprenne le contrôle de toutes les armes. Cette question a-t-elle été tranchée sur le plan politique, Monsieur Michel de Chadarévian?
Écoutez, nous sommes tous d'accord qu'il n'y aura aucune formation militaire sur le sol libanais après la décision du Conseil des ministres et suivant la volonté du président de la République qu'il y aura un monopole des armes seulement sous l'emprise de l'armée libanaise et des forces de sécurité intérieure libanaises. Mais il faut pas oublier que l'armée libanaise aujourd'hui est en train de s'occuper d'un simple accident de voiture jusqu'aux frontières, jusqu'à combattre le terrorisme, jusqu'à combattre tout ce qui se passe sur le sol libanais. Mais il faut leur donner les moyens. On ne peut pas dire que nous allons aider l'armée libanaise en parole. Nous voulons que les grandes puissances, la communauté internationale, aident l'armée libanaise pour qu'elle puisse s'occuper, elle aussi, de continuer à faire son travail sur tout le territoire libanais. Mais
oui.
Seulement prêcher à l'armée libanaise qu'ils doivent désarmer Hezbollah, que là, tout le monde est d'accord sur ça, mais il faut leur donner les moyens.
Demander à ce que le Hezbollah soit désarmé serait une forme de manœuvre politicienne afin d'affaiblir le Liban, selon vous, Monsieur Michel de Chadarévian?
Mais ils sont en train de l'affaiblir
bon gré, malgré,
si jamais ils le savent ou s'ils ne le savent pas. Ils sont en train d'affaiblir le gouvernement libanais, ils sont en train d'affaiblir le mandat du président de la République quand on ne donne pas les moyens à l'armée libanaise et qu'on leur demande à l'armée libanaise de faire plus qu'ils peuvent faire.
Avez-vous engagé des négociations ou en tout cas un dialogue avec le Hezbollah?
Mais bien sûr, le dialogue a été ininterrompu avec le Hezbollah. Ils sont toujours dans l'armée libanaise, même des émissaires du président sont en train, et même le président Barre, qui est en train de lui-même faire le lien, le go-between, même les Américains, le Hezbollah et l'État libanais, bien sûr. Notre système au Liban est un système peut-être unique, une démocratie consensuelle.
Absolument.
Ça, c'est un. Ce n'est pas comme aux États-Unis, la majorité gagne, alors la minorité est en train de subir ce que la majorité fait. Il n'y a ni droite ni gauche, c'est pas ça. Aujourd'hui, au Liban, il y a 18 communautés qui sont considérées, chaque communauté, exactement comme l'autre communauté. Nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas qu'une communauté prenne le dessus sur les autres. Donc, nous sommes en train de discuter avec le Hezbollah. Le Hezbollah est en train de comprendre ce que le gouvernement libanais lui demande. Mais aussi, ils ont aussi une base populaire qu'il faut déjà prendre en considération. On peut pas, aujourd'hui, la reconstruction est arrêtée grâce aux Israéliens. Parce qu'ils ne veulent pas que les villages qui ont été rasés soient reconstruits par l'État libanais. Pour que l'État libanais puisse reconstruire ces villages et ce territoire qui a été vraiment rasé par les Israéliens, il faut que la communauté internationale aide le Liban économiquement. Donc c'est un cercle vicieux qui est en train de tourner. On demande qui passe en premier, la poule ou l'œuf. Nous sommes dans ce pétrin et nous débattons pour pouvoir sortir de ce pétrin-là.
Monsieur Michel de Chadarévian, conseiller diplomatique du président libanais, vous étiez avec nous à partir de Beyrouth. Merci infiniment de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur de Chadarévian.
Merci beaucoup, madame. Merci.
Merci. autre actualité, la rencontre entre les deux chefs d'État, Donald Trump et Xi Jinping. Pour la première fois depuis 2019, les présidents américains et chinois se retrouvent en Corée du Sud dans un contexte marqué par la menace d'une reprise des essais nucléaires américains. Cette entrevue a débouché sur des concessions mutuelles et des accords, notamment sur les droits de douane et les terres rares. Le secrétaire du Trésor des États-Unis s'en félicite.
Je peux vous dire que nous avons eu deux très bonnes journées, donc je m'attends à ce que la menace d'une taxe supplémentaire de 100% soit désormais écarté, tout comme la menace d'une imposition immédiate par la Chine d'un régime mondial de contrôle des exportations.
Dans une déclaration, Xi Jinping a déclaré que face au vent, aux vagues et aux défis, nous devons, dira le président chinois, maintenir le cap, naviguer dans un paysage complexe et assurer la progression régulière du gigantesque navire que sont les relations sino-américaines. Xi Jinping évoque des frictions ponctuelles.
Étant donné nos différentes situations nationales, c'est normal de ne pas toujours être en accord pour les deux premières économies mondiales et de connaître des frictions de temps à autre.
De son côté, Donald Trump rappelle que la Chine est le plus grand partenaire des États-Unis et grâce à leur effort conjoint, les deux pays peuvent accomplir beaucoup de grandes choses pour le monde et connaître de nombreuses années de succès. Donald Trump évoque des relations fantastiques.
Merci beaucoup, c'est un grand honneur d'être avec un ami depuis longtemps, le très distingué et très respecté président de Chine. Et je crois que nous allons avoir des relations fantastiques.
Avec nous en ligne, Monsieur François Gaudemont, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes expert résident principal et conseiller spécial Asie-États-Unis. La rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping en Corée du Sud est la première depuis 2019 et a duré un peu plus de 90 minutes. Les deux puissances cherchent à asseoir leur influence globale. La Chine comme leader régional en Asie-Pacifique et les États-Unis visent à préserver l'hégémonie mondiale. Un point d'équilibre peut-il aujourd'hui être trouvé? Un point d'équilibre consensuel.
Je crois qu'on est depuis des décennies, essentiellement depuis la reconnaissance de la République populaire de Chine par les États-Unis, dans ce qu'on pourrait appeler un équilibre instable, dans lequel il est évident que la Chine accroît petit à petit son influence à la mesure de sa croissance, et dans lequel les États-Unis alternent entre des moments dits d'engagement politique, diplomatique, et puis des moments de résistance ou de réaction à un certain nombre d'actions chinoises. Là, il est clair qu'on vient d'avoir un cycle court, un affrontement, un défi, on pourrait presque dire une dissuasion mutuelle autour du commerce, et puis pour l'instant, je dirais plus une pause pour négocier à nouveau, plutôt qu'une résolution complète.
Les relations entre la Chine et les États-Unis en 2025 sont caractérisées par une dynamique complexe, mêlant coopération partielle et forte concurrence, notamment dans les domaines économiques et géopolitiques. La rencontre entre Trump et Xi Jinping en Corée du Sud va-t-elle stabiliser cette relation bilatérale ?
Je ne pense pas qu'on y soit encore. Malgré tous les commentaires qui disent que Trump a cédé à la Chine, oui, en un sens, parce qu'il vient d'abaisser un petit peu les tarifs douaniers, qui restent quand même élevés, 47%.
Oui, de 57 à 47, en effet.
Oui, parce qu'il supprime la moitié de la pénalité des sanctions liées aux exportations par la Chine de précurseurs du fentanyl, de cette drogue chimique qu'est le fentanyl. Mais, comme le dit Trump lui-même, cela, c'est une pause d'un an et la Chine a accepté, avec des détails qu'on ne connaît pas encore, d'adoucir son contrôle sur les exportations de terres rares, mais pas forcément de le supprimer, pas forcément de le lever, pour un an.
Oui.
Un an, ça nous a peine pratiquement deux jours avant les élections dites de mi-mandat aux États-Unis, qui sont cruciales pour Donald Trump.
Une pause d'un an pour la Chine, c'est considérable. La Chine joue sur le temps.
Oui, elle joue sur le temps, c'est vrai, de deux façons. À long terme, bien sûr, parce qu'elle poursuit ses objectifs de développement technologique et de puissance. À très court terme, parce qu'elle a besoin de ses marchés d'exportation, parce qu'elle ne peut pas se permettre de s'en couper. Ils lui fournissent plus de la moitié de sa croissance. La croissance chinoise aujourd'hui, c'est beaucoup moins l'économie intérieure que les exportations. Donc mettre en pause, il y avait déjà une première pause après les mesures d'avril dernier. Il y a déjà eu 6 mois de pause. Le bras de fer a repris. Cette fois-ci, on a 1 an de pause pendant laquelle on peut supposer qu'il y aura beaucoup de négociations. N'oublions pas que la Chine reste quand même affectée par 47% de droits de douane. C'est plus que les alliés et partenaires des États-Unis, sauf l'Inde, qui de ce point de vue-là est particulièrement maltraitée actuellement. Mais les partenaires et les alliés, le Japon, la Corée, les Européens, arrivent en général à 15-20%.
Nous avons évoqué ces droits de douane, le maintien de l'exportation de terres rares, l'achat du soja américain par la Chine, également Monsieur François Gaudemont, ce sont des paramètres économiques essentiellement. Cependant, les différends subsistent sur des questions majeures telles que Taïwan et la rivalité géopolitique globale, avec un climat qualifié tantôt de nouvelle guerre froide. Est-ce que peu a été dit sur ce sujet ou sur cette question, pour peu qu'elle ait été abordée ?
Si l'on en croit Donald Trump, la question de Taïwan n'a pas du tout été soulevée. C'est ce qu'il a dit à l'issue de cette réunion. Si on essaye de lire entre les lignes la très courte déclaration de Xi Jinping, il parle de stabilisation des rapports, mais essentiellement autour des rapports commerciaux et beaucoup moins de la géopolitique. Je pense que ce chapitre-là, n'oublions pas que la rencontre a duré effectivement 90 minutes, en tout et pour tout, traduction comprise. Elle est certes très préparée, mais elle est préparée par les responsables du commerce, de la technologie, des finances américaines ou bien sûr leurs homologues chinois. Je pense qu'il y a eu beaucoup moins d'accord du côté géopolitique auquel vous faites allusion.
Et pourtant, ce sont ces différends autour de sujets géopolitiques qui posent fondamentalement problème et pour les États-Unis et pour la Chine. Ces deux puissances vont-elles pouvoir faire fi de tout cela pour ne parler ou pour n'évoquer que les questions économiques?
De façon un peu incroyable, Donald Trump a lancé sur son réseau social un tweet, comme on dit, qui dit « bientôt le G2 ». Oui. Le G2, c'est vraiment la hantise de tous les autres, des Japonais, des Européens, des émergents, si vous voulez, l'idée que les deux pays s'entendent par-dessus la tête de tous les autres. Je pense que ça fait partie un peu du système de communication de Trump, de claironner des résultats qui vont au-delà de ce qui s'est réellement passé. Moi, je reste sur la formule d'un équilibre assez instable tout de même. Et en effet, les deux pays continueront leur course à la fois technologique et militaire.
Permettez-moi de m'attarder sur cette question, celle de Taïwan. Taïwan est au cœur de cette rivalité. La Chine revendiquant sa réunification et les États-Unis fournissant un soutien militaire à l'île. La question taïwanaise peut-elle constituer un point de rupture? Alors, Donald Trump a parlé de G2, il s'est félicité d'une rencontre longue, consensuelle avec Xi Jinping, mais Taïwan peut-elle constituer un point de rupture?
Ça peut encore se produire, c'est évident. Soit un blocus naval chinois destiné à amener l'île à récipiscence sans tout à fait déclarer une guerre, mais il faut pas oublier qu'en termes de droit international, un blocus peut être équivalent à une action militaire. Du côté américain, il y a beaucoup d'ambiguïté. On peut dire que l'administration Trump a, de façon très volubile, voulu recentrer la défense américaine de l'Europe vers l'Asie à cause de la question de Taïwan, mais on entend beaucoup de voix aux États-Unis aussi, y compris des voix de gens qui sont proches de l'administration, qui critiquent cette approche, qui n'ont pas envie d'un engagement militaire autour de Taïwan. Donc la question est très très loin d'être tranchée. Il y avait eu des rumeurs, un peu plus que des rumeurs même, avant la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping, disant que la Chine demandait de la part des États-Unis une expression plus nette pour récuser l'hypothèse d'une indépendance de Taïwan. Jusqu'ici, les États-Unis sont toujours restés dans l'ambiguïté stratégique et politique, comme d'ailleurs un certain nombre de partenaires. Or, cela ne s'est pas produit. Il n'y a pas, pour l'instant, en tous les cas, de déclarations américaines.
Mais les faits sont probants. La présence militaire américaine dans la région est perçue comme une provocation par la Chine.
Oui, alors le terme de provocation est peut-être abusif parce que ça fait 70 ans que la situation est comme ça. Par contre, il ne faut pas oublier que tous les alliés et partenaires des États-Unis, du Japon à la Corée et même à l'ASEAN, qui se déclarent en principe neutralistes, seraient bien embêtés si les États-Unis se retiraient. Ça sert de balancier contre une puissance militaire chinoise montante et qui a des conflits territoriaux à travers toute la région.
Monsieur François Gaudemont, il s'agit donc, si j'ai bien entendu votre propos, il s'agit d'un équilibre fragile entre confrontation et collaboration entre la Chine d'une part et les États-Unis d'autre part. Dans quelle mesure cette relation peut-elle être déterminante pour l'ordre mondial? Le G2 face au reste du monde, dans quelle mesure cette relation qui semble se construire sur un terrain plus économique que géopolitique peut-elle être déterminante pour l'ordre mondial?
Elle est extrêmement importante parce que les autres économies auront beaucoup de mal à se prémunir contre le véritable tsunami, le véritable déluge d'exportations chinoises. Il est difficile pour des pays qui sont beaucoup moins puissants que les États-Unis de prendre les contre-mesures nécessaires. À l'inverse, si les États-Unis érigent une barrière douanière, il y en a quand même une d'ailleurs, hein, il faut souligner qu'on est quand même à 47% encore
oui.
une fois.
On est loin, on reste tout de même loin de la première barrière douanière imposée par Donald Trump. Donc il y a eu tout de même un certain recul.
Oui, c'était monté jusqu'à 145%.
Oui.
Et s'il avait mis à exécution ces mesures au 1er novembre, on montait à 153%.
C'est ça.
Ça revenait à un arrêt pratiquement des exportations chinoises. Dans d'autres domaines, les États-Unis semblent avoir reculé aussi. Par exemple, l'application de taxes spéciales pour les produits arrivant sur des navires construits par la Chine ou vendus par la Chine ou opérés par la Chine sur le plan du commerce.
Il y a également le paramètre Russie. Pékin entretient des relations étroites avec Moscou et continue d'importer le pétrole russe alors que les États-Unis veulent le réduire. Ces relations Russie-Chine constitue-t-elle une source de tension diplomatique supplémentaire, Monsieur François Gaudemont ?
Elle devrait l'être. Ça fait évidemment partie des demandes, généralement assez discrètes d'ailleurs, car les États-Unis n'ont jamais voulu, même sous Joe Biden, avant Donald Trump, confronter directement la Chine. Or, on peut penser qu'il y a eu par derrière des discussions pour tenter de limiter l'ampleur de l'assistance diplomatique, politique, financière que la Chine apporte à la Russie. Cette fois-ci, rien n'a été dit sur le pétrole. Il y a une réalité, c'est que l'expansion de la politique d'exploration et d'exploitation américaine, les accords qui ont été passés avec les pays du Moyen-Orient sur le plan de l'extraction et du prix, font baisser le prix mondial du pétrole. Ça fait les affaires de la Chine, comme d'autres d'ailleurs. Ça ne fait pas les affaires, bien sûr, de certains pays producteurs. Ça ne fait surtout pas les affaires de la Russie, pour laquelle le produit de ses ventes de pétrole, à la Chine, mais également à l'Inde et à quelques autres, ou parfois du gaz liquéfié, apporte les ressources que les sanctions actuellement lui refusent par ailleurs. Donc, on peut se dire que, paradoxalement, cette question a été au second plan. Et puis, quand on est Donald Trump, on s'occupe des intérêts directs, immédiats, d'abord. Et on veut aussi un résultat qu'on puisse montrer, qu'on puisse claironner devant l'opinion américaine. N'oublions pas que c'est aussi, avant tout, un lutteur, un tacticien dans le domaine de la politique intérieure.
Donald Trump a ordonné à son ministre de la Défense de commencer à tester les armes nucléaires des États-Unis. Il a ordonné cela juste avant sa rencontre avec Xi Jinping. Faille-t-il y voir une relation de cause à effet ? Faille-t-il y voir un discours dissuasif ?
Oui, il y a évidemment un message. Tout comme le discours du secrétaire d'État à la défense américain à Singapour au début du mois de juin dernier, qui était très très ciblé en direction des alliés asiatiques, mettant en cause la montée militaire de la Chine. Je pense que le progrès technologique et le déploiement des armements chinois, évidemment, inquiètent à plus long terme. C'est bien le signe, si vous voulez, que cette rencontre s'est déroulée autour de certains objectifs, mais qu'elle ne résout évidemment pas la concurrence stratégique ou même militaire à plus long terme.
Le président chinois a félicité Donald Trump pour ses efforts pour la paix, a-t-il dit. Il dira également, au sujet de l'Ukraine notamment, « Nous allons travailler ensemble pour voir si nous pouvons trouver une solution ». Il a même parlé de consensus. Est-ce que c'est une proposition pour agir en qualité de médiateur dans certains conflits, notamment entre l'Ukraine et la Russie, Monsieur François Gaudemont ?
Je n'ai pas vu ce passage-là dans la déclaration, que c'est la courte déclaration que Xi Jinping vient de faire. La Chine a envisagé sa médiation. Mais c'est une affaire très compliquée parce que pour faire, soit c'est une action pour une conférence internationale, si vous voulez, une sorte de conférence de Genève qui concernerait l'Ukraine et la Russie, soit il s'agit, même dans le cadre d'un accord plus modeste, de cesser le feu, même pas un armistice, mais juste un cesser le feu. Dans ce cas, il faut des observateurs. C'est peu imaginable que la Chine déploie des observateurs des deux côtés. J'ai beaucoup de mal envisager l'idée que par concession aux États-Unis, la Chine et Xi Jinping pourraient faire des pressions, même discrètes, sur la Russie. La Russie est un atout politique et stratégique pour elle, mais elle n'a probablement pas l'intention de se défaire de cet atout qui peut demeurer à plus long terme. Je ne crois pas à cette hypothèse, mais enfin bon, nous verrons. Tout dépend aussi de la solidité des menaces ou de la capacité des États-Unis de mettre à exécution ces fameuses sanctions commerciales ou technologiques. Pour l'instant, c'est pas très convaincant.
Chine d'un côté, États-Unis d'un autre. En somme, peut-on dire que chaque avancée d'un camp est perçue comme un défi pour l'autre ?
Oui, pour la Chine, c'est un peu traditionnel et c'est, au fond, ça n'est que sous Xi Jinping que la Chine a commencé à reconnaître qu'elle ambitionnait d'arriver au premier rang des puissances mondiales. Ça ne veut pas dire premier, mais au premier rang, sous-entendu à parité avec les États-Unis. Ça, c'est nouveau et c'est un défi pour les États-Unis. Le défi pour la Chine, il est plus difficile d'identifier ce qui est vraiment nouveau, puisque la guerre froide, ou le rideau de fer, le rideau de bambou, comme on dit, était une réalité depuis la guerre de Corée. Ce qui risque de se produire autour de Taïwan, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, tient moins d'une guerre froide que du risque d'une guerre chaude ou d'un affrontement plus concret, parce que Taïwan est un État de facto, c'est pas un État reconnu dans la communauté internationale, mais il a toutes les caractéristiques ordinaires d'un État, une armée, une police, une administration, une justice, une vie politique, une économie extraordinairement forte grâce aux semi-conducteurs. On n'est pas dans une affaire de détail, on n'est pas dans une pure affaire de conflit territorial.
Monsieur François Gaudemont, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci infiniment.
Je vous en prie, merci à vous.
François Gaudemont est expert résident principal, conseiller spécial Asie-États-Unis, auteur de l'ouvrage « Les mots de Xi Jinping, la Chine à nos portes, une tragédie pour l'Europe ». Juste avant son rendez-vous déterminant avec le président chinois Xi Jinping en Corée du Sud, Donald Trump a donné instruction de reprendre sans délai les tests d'armes nucléaires américaines.
Nous possédons plus d'armes nucléaires que quiconque. Nous ne faisons pas d'essais, nous les avons arrêtés il y a un bon nombre d'années. Mais comme d'autres pays en font, je pense qu'il est normal que nous en fassions aussi.
Cette décision intervient quelques jours après qu'un drone sous-marin doté d'une capacité nucléaire a été testé par la Russie et juste avant le sommet prévu entre Trump et le président Xi Jinping. Il faut noter que les États-Unis n'avaient pas procédé à de tels tests depuis plus de 33 ans. Avec nous à partir de Genève, Monsieur Daniel Warner, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes universitaire américain spécialiste des relations internationales et des affaires diplomatiques. Monsieur Daniel Warner, les relations actuelles entre les États-Unis et la Russie sont marquées par des équilibres complexes. Celles-ci avancent en dents de scie, elles vacillent entre des tensions et des tentatives de dialogue diplomatique. Comment, Monsieur Daniel Warner, stabiliser ses relations?
C'est une excellente question. Ce qu'on peut dire, c'est avec président Trump, les choses changent tout le temps. Pendant la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, il y avait des discussions et il y avait des discussions surtout dans le long terme. Avec Trump, on ne sait jamais. Par exemple, à Anchorage, Alaska, il y avait le sommet.
Oui.
Monsieur Trump a donné le tapis rouge pour Monsieur Poutine. Il y avait même Monsieur Poutine dans la voiture du président américain. Donc, tout le monde a dit, il y aura de progrès. Mais après, on voit que la réunion sommet à Budapest était annulée. On écoute Monsieur Trump qui dit, il est frustré qu'il n'y a pas de résultats. Donc, c'est très difficile de dire aujourd'hui quelle est la vraie relation entre les États-Unis et la Russie.
Vous avez cité le sommet d'Alaska qui a eu lieu en août 2025. Il a été perçu, comme vous l'indiquez à l'instant, comme une victoire diplomatique. Ce sommet a été précédé par la rencontre entre les ministres des Affaires étrangères en février 2025 des deux pays, des États-Unis et de la Russie, malgré les tensions nées des sanctions économiques. Est-ce que il y a une volonté politique stoppée par des facteurs extra-politiques, j'allais dire, Monsieur Daniel Warner?
Oui, bien sûr. Dans le côté positif, Monsieur Trump veut toujours faire du business avec la Russie. Mais de l'autre côté, Monsieur Trump a dit, si les résultats dans nos discussions et la guerre continuent avec l'Ukraine, je vais augmenter les sanctions contre la Russie. Donc, il y a un aspect économique qui est toujours derrière, mais pour le moment, il y a une grande frustration que la guerre continue. Monsieur Trump veut toujours avoir le prix Nobel de la paix. Il est très fier de ce qu'il fait au Moyen-Orient. Mais vis-à-vis de la Russie et l'Ukraine, il n'y a pas le même niveau de résultats.
Le président Donald Trump a exprimé, et plus d'une fois, son admiration pour Vladimir Poutine. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que ce serait juste de la rhétorique ou du discours politique fait pour tenter de calmer les tensions précédentes?
Non, je crois que le président Trump, il aime les gens très très fort, mais c'est un paradoxe. Il a dit, il est très fier de dire, j'ai arrêté cette guerre, peut-être même il y aura 8 ou 9, mais il admet qu'avec la Russie, avec l'Ukraine, c'est plus compliqué ce qu'il a pensé. Parce que pendant la campagne électorale, il a dit en 24 heures, je peux arrêter cette guerre, et ça fait des années que ça continue.
Est-ce qu'il y a une crainte de voir les relations transatlantiques s'affaiblir?
Oui, donc tout à fait, parce qu'il a dit des choses contre l'OTAN, donc il a insisté que les autres pays paient 5% de PIB pour les militaires, et quand même, il y a un certain désengagement de pays européens vis-à-vis les États-Unis, et ça, c'est évident que tous les pays en Europe ne savent pas exactement ce qu'il va faire le lendemain, et je crois même lui et des gens autour de lui, ça change les stratégies, ça change tout le temps.
En somme, il est considéré, peut-être par d'autres cercles, qu'un rapprochement entre Donald Trump et Vladimir Poutine, par exemple, pourrait conduire à une diminution de la solidarité transatlantique.
Pour répondre à votre question,
oui.
Il y a un style avec M. Trump, il y a un style avec M. Poutine, et dans ce sens-là, il y a un certain rapprochement, mais vis-à-vis le politique, géopolitique entre les deux pays,
oui.
On est dans un moment d'incertitude. Pendant la guerre froide, il y avait une certaine certitude, les gens parlaient tout le temps. Maintenant, j'ai pas l'impression que c'est la même chose.
Monsieur Daniel Warner, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes spécialiste des relations internationales et des affaires diplomatiques, analyste des questions relatives à la gouvernance mondiale et les relations entre la Russie et les États-Unis notamment. Monsieur Daniel Warner, les États-Unis viennent d'annoncer, en dépit de cette volonté de Donald Trump d'établir les relations avec la Russie, d'atténuer les tensions avec Moscou, les États-Unis viennent d'annoncer des sanctions supplémentaires économique contre de grandes compagnies pétrolières russes, Rosneft et Lukoil. Qu'est-ce que cette pression supplémentaire qui a fait réagir Moscou pourrait avoir comme lecture politique?
Oui, tout à fait. Encore une excellente question. On voit M. Trump maintenant en Asie et il a augmenté les tarifs contre les Chinois pour exactement la même raison. C'est la grande stratégie de dire, si vous voulez que je descende les tarifs douaniers, il faut quand même faire quelque chose que moi je veux. Et je crois qu'il utilise ça comme une pression sur M. Poutine et le gouvernement russe pour dire il faut arrêter la guerre et il faut trouver une solution. Le problème, c'est qu'il peut mettre beaucoup de pression sur les Russes, mais c'est pas exactement la même chose avec M. Zelensky. Par exemple, le président Ukraine, M. Trump a dit, peut-être, il faut changer le territoire. Il y a certains territoires en Crimée, peut-être, il faut donner ça à la Russie. Et le président Zelensky de Ukraine a dit, absolument pas. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours avoir une solution compréhensive. Alors, vis-à-vis la Russie et l'Ukraine, M. Trump peut mettre des sanctions contre la Russie, mais c'est pas garanti que M. Zelensky va accepter ce que les Russes vont proposer. Donc, on est loin d'avoir une solution pour pas uniquement arrêter la guerre avec un cessez-le-feu, mais aussi d'avoir une situation qui sont valables pour les deux pays, qui peut établir une paix qui va durer.
Une paix qui va durer. Vous avez évoqué la Chine, monsieur Daniel Werner. La Chine vient d'acheter des quantités considérables de blé états-unien à la veille de la rencontre entre le président chinois et le président Donald Trump. La Chine qui est un allié également de la Russie.
Oui, donc ça fait partie de ce que j'ai commencé de dire au début. On est dans une situation qui manque de stabilité. Avec M. Trump, on voit que chaque jour, même chaque demi-jour, même chaque heure, oui, il change d'opinion. Et donc, on est toujours dans un certain flou. Et dans cette flou, il y aura des changements vis-à-vis des tarifs, il y a des changements vis-à-vis de stratégie. Mais M. Trump a arrangé une certaine chose avec le blé, avec les Chinois.
Oui.
Mais les Chinois vont demander quelque chose au retour. Ça peut être vis-à-vis de Taïwan. Alors, les gens vont dire, mais les Chinois vont dire, mais laissez-nous Taïwan et nous, on va acheter toutes les choses américaines. Et donc, ça, il y aura un autre rapprochement entre les deux pays.
Retour aux relations entre les États-Unis et la Russie. En parallèle, les États-Unis imposent des sanctions économiques contre la Russie, réduisent leur présence militaire en Europe de l'Est, ce qui, en soi, modifie le paysage sécuritaire. Mais en même temps, cela peut être considéré comme une volonté américaine de contenir la Russie en Europe de l'Est. On ne peut pas prétendre que Donald Trump, qui change d'avis constamment, ne sait pas ce qu'il fait ou ne sait pas ce qu'il veut.
Oui, c'est un commentaire qu'il faut suivre. Parce que quand M. Trump était élu, il était élu une des raisons de dire « je ne vais pas projeter les troupes américaines à l'extérieur ».
Oui.
J'en ai ras-le-bol de toutes ces guerres qui continuent et on va rester chez nous. Make America great again. Mais le contraire arrive maintenant quand il envoie des porte-avions dans l'Amérique latine. Et il commence à dire même éventuellement de bombarder le Venezuela. Donc, ça veut dire encore que l'Europe, bien sûr, l'Europe de l'Est n'a pas la même garantie de présence américaine. Mais quand on voit, M. Trump, on voit des troupes en l'Amérique latine, oui, ça veut pas dire c'est un isolationnisme qu'on a vu avant, il est quand même prêt d'intervenir. Mais on est presque sûr que ça sera pas dans l'Europe de l'Est ou en Europe en général.
Mais alors, on a l'impression, effectivement, monsieur Daniel Werner, que le président Trump frôle les lignes rouges, mais ne les franchit presque jamais. On va dire jusqu'à présent jamais.
Oui, mais ce qu'il dit et ce qu'il fait est deux choses qui sont souvent difficiles à comprendre. Et on est tout à fait étonné, par exemple, qu'il envoie des drones et bombarde des bateaux,
oui,
entre Venezuela et dans le Caraïbe, qui est quand même contre le droit international. Mais il fait ça. Et les gens disent, mais à quel titre? Il n'a pas demandé au Congrès, il n'a pas déclaré la guerre. Il parle même d'envoyer des CIA en Venezuela. Alors tout ça, pourquoi?
Est-ce que l'on pourrait aujourd'hui évoquer des zones ou des sphères d'influence globale, que cela soit en Amérique latine, en Europe ou en Asie, comme cela est suggéré ces dernières heures? Est-ce qu'il y a des zones d'influence globale que les uns et les autres veulent contenir?
Ça aussi, vis-à-vis de l'Amérique latine, ça date du 19e siècle de doctrine Monroe, où les Américains disaient que eux, ils gouvernent tout cet continent.
Oui.
Mais de l'autre côté, il y a des choses vis-à-vis des Chinois, vis-à-vis de Taïwan et vis-à-vis de l'Asie du Sud qui posent des questions. Moi, à mon avis, on n'est pas dans un monde qui est totalement territorial.
Mm-hmm.
C'est beaucoup la question d'économie, c'est beaucoup la question de intelligence artificielle, c'est beaucoup question de matériel basé sur les ordinateurs et l'Internet. Donc, on entre dans un certain sens dans un monde déterritorialisé.
Lors de sa visite au Japon, le président Donald Trump a déclaré ceci: la fin du politiquement correct. Quelle lecture fait-il en faire? La fin du politiquement correct.
Oui, donc, il faut définir ce que c'est le politique Par exemple, on dit que M. Trump est toujours derrière Israël parce qu'il y a toute une communauté chrétienne évangélique aux États-Unis qui, pour eux, l'Israël est très important, aussi pour la communauté juive. Donc, ça veut dire qu'il y a un mélange de différents facteurs. Un, on a parlé d'économie. Deux, on parle de certains sens de tradition avec des pays. Mais troisième chose, on parle de ces questions sociales. Et on voit l'extrême droite en Europe qui revient dans certaines traditions chrétiennes qui sont quand même à la mode. Et c'est contre certaines choses libérales.
C'était lors d'une cérémonie marquant le 250e anniversaire de la marine américaine à la base navale de Norfolk que Donald Trump a parlé du politiquement correct.
Et on voit aussi quand M. Hegseth, le secrétaire de défense, a parlé à Guantanamo vis-à-vis des généraux et des admiraux, c'était des questions très puissantes. Il y a quand même avec Trump, il faut jamais oublier, une certaine nostalgie pour les années 1950. Quand il a dit « Make America Great Again » de nouveau, il veut revenir dans une époque quand les États-Unis étaient dominants, quand il y avait les familles nucléaires, etc. Et ça, ça touche des Américains qui ont peur d'un certain déclin et ils ont peur socialement qu'il y a beaucoup de choses qui changent maintenant. Donc, il y a un certain retour vis-à-vis une population américaine qui est en fait une contre-courant de cette culture qui a évolué dans les années 80, 90 et 2000.
Monsieur Daniel Warner, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Vous êtes universitaire américain, spécialiste des relations internationales et des affaires diplomatiques, analyste des questions relatives à la gouvernance mondiale et les relations entre la Russie et les États-Unis. Merci beaucoup, monsieur Daniel Warner, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Le 11 mars 1985, Mikhail Gorbatchev est nommé secrétaire général du Parti communiste soviétique. L'accession au pouvoir de cet homme, au parcours fulgurant, n'appartenant pas à la génération qui a connu Staline, est perçu par les Occidentaux comme l'avènement de la relève au sein de l'équipe dirigeante soviétique. Le nouveau dirigeant suprême est considéré par les Américains comme plus pragmatique qu'idéologique. Il apparaît donc comme un atout dans le dialogue renaissant avec les États-Unis et dans la négociation concernant la limitation et la réduction d'armement. Le patron du Time Magazine avait alors rencontré Gorbatchev. Il dira de lui ceci.
Je voudrais ajouter ce commentaire sur le système politique soviétique. C'est bizarre que le simple fait que l'Union soviétique est maintenant un homme qui peut parler facilement avec les étrangers ou avec ses propres concitoyens, un homme qui maîtrise ce qu'il fait, qui est raisonnablement présent, ce soit surprenant. Ce n'est surprenant que par contraste avec les anciens dirigeants de l'Union soviétique. Jugement américain sur un homme très préoccupé de ses rapports avec l'Amérique, mais désireux aussi, M. Gorbatchev, de réussir une sorte de percée politique en Europe.
Gorbatchev veut sortir son pays de la guerre froide ruineuse pour l'Union soviétique, qui consacre environ 16% de son PNB contre 6,5% pour les États-Unis. La première rencontre officielle entre Gorbatchev et Ronald Reagan a eu lieu lors du sommet de Genève en octobre 1985. Les deux dirigeants conviennent de se rencontrer à l'avenir pour discuter du désarmement. Le sommet se caractérise alors par le début d'une nouvelle détente manifeste entre les deux super grands.
De quoi allez-vous parler? Vous savez de quoi nous allons parler, répond Mikhail Gorbatchev. Quelles sont vos premières impressions l'un de l'autre? Favorable, ajoute encore le leader soviétique, alors que la réponse de Ronald Reagan se perd quelque peu dans le brouhaha. Dès que la presse quitte les lieux, commencent les choses sérieuses pour ce sommet des deux super grands. Le premier depuis 6 ans, depuis la rencontre de Vienne entre Jimmy Carter et Léonid Brejnev en 1979.
En décembre 1989, après avoir rencontré Gorbatchev à Malte, George Walker Bush, nouveau président des États-Unis, annonce la fin de l'affrontement Est-Ouest, c'est-à-dire de la guerre froide et de la bipolarisation du monde. L'OTAN et le pacte de Varsovie entament le démantèlement aussi bien de leur arsenal nucléaire que de leurs forces de frappe conventionnelles. Gorbatchev, le nouveau dirigeant, lance la perestroïka, un ensemble de mesures de libéralisation économique et politique. Seulement, en ex-Union soviétique, la crise s'aggrave, les pénuries augmentent. Parallèlement, les revendications nationalistes s'accélèrent dans les différentes républiques de l'Union, qui, une à une, proclament leur indépendance. Le 8 décembre 1991, la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie proclament la fin de l'URSS. S'ensuivra alors la démission de Mikhail Gorbatchev.
Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Néanmoins, l'affrontement, parfois appelé guerre tiède, se poursuit au niveau de la guerre économique, notamment pour le contrôle de zones stratégiques, en particulier les sources et circuits énergétiques. Se poursuit également la lutte via le soft ou le hard power entre les Américains et les Russes en Europe orientale, comme le montre la deuxième guerre d'Ossétie du Sud en 2008. Vladimir Poutine était alors Premier ministre.
Il y a des victimes, dont des soldats russes. C'est une situation dramatique qui oblige à prendre des mesures.
En 2009, Barack Obama arrivait au pouvoir alors que Vladimir Poutine avait laissé quelques mois plus tôt son siège au président Dmitri Medvedev, s'octroyant celui de Premier ministre. À l'époque, l'administration américaine avait promis de reprogrammer les relations avec Moscou, mises à mal sous Bush. En avril 2013, le département d'État américain publie la liste de 18 fonctionnaires russes interdits sur le territoire américain et dont les avoirs sont gelés du fait, dira l'administration US, de leur implication dans la mort de Sergueï Magnitsky. La même année, en 2013, le président Barack Obama annule sa rencontre avec le président Poutine, une annulation qu'il estime nécessaire. Il dira « Il est probablement utile pour nous de marquer une pause et de voir où va la Russie. »
Il est probablement utile pour nous de marquer une pause et de savoir où va la Russie, où se situe le cœur même de nos intérêts, de sorte qu'on puisse adapter nos relations. Nous faisons les choses pour servir au mieux les États-Unis et par la même occasion la Russie, du moins, nous l'espérons. Mais nous reconnaissons qu'il y a des différences et nous n'allons quand même pas passer outre.
En avril 2014, le secrétaire général de l'OTAN, Anders Rasmussen, déclarait que la crise ukrainienne accentuait la nécessité de renforcer la coopération entre l'OTAN, l'Union européenne et leurs proches partenaires. Il appelait la Russie à engager une désescalade, à retirer ses troupes des abords de la frontière avec l'Ukraine et à cesser de déstabiliser la situation dans le pays. Dixit. Anders Rasmussen.
Des tentatives d'intimidation de l'Ukraine dans le but d'une prise de contrôle ou du moins d'avoir un impact majeur sur le développement politique interne de l'Ukraine. En plus de rétablir une sphère d'influence russe dans l'ancien espace soviétique. Voilà, je pense, ce dont il s'agit. C'est un sujet très grave. Si la Russie intervient plus avant en Ukraine, je n'hésiterai pas à qualifier cela d'erreur historique. Mistake.
Ont participé à ce programme François Gaudemont, expert résident principal et conseiller spécial Asie, États-Unis, membre associé au Carnegie Endowment for International Peace, auteur de l'ouvrage Les mots de Xi Jinping. Michel de Chadarévian, conseiller diplomatique du président libanais Joseph Aoun. Daniel Warner, universitaire américain spécialiste des relations internationales et des affaires diplomatiques. L'histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Sami Haheli. Marim Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 17h. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Inch'Allah.